France Musique.
Tout de rose, non, de framboise vêtu. Monsieur Niquet, je vous salue. Le titre de votre chronique aujourd'hui, eh oui, c'est Casse-couille premier.
Bonjour, monsieur Joss. Ben dites donc, j'ai pris un sacré coup de vieux le week-end passé, là. Déjà que je suis plus de la toute première fraîcheur et plus près de la date de péremption que de celle de l'entrée au conservatoire. Mais je peux vous dire que le père Niquet a brusquement senti le poids de la mélancolie active. Oh, dites donc, c'est beau comme dit Maurice Genevoix de l'Académie française, non ? Vous ne trouvez pas ? Pétard, il sait même pas qui c'est cet écrivain. Rabolio, la dernière barre de la forêt perdue. Ça vous dit rien, monsieur Joss ? Me dire, décidément, je suis vraiment démodé, moi. Oui, j'ai pris un sacré coup de vieux, un coup de vieux au cœur dimanche soir en apprenant la mort de Nicolaos Arnoncourt. Notre pape est mort. Mais non, monsieur Joss, pas celui qui fait des rondes fumées et des photos place Saint-Pierre avec un bonnet d'âne sur sa tête. Non, notre pape à nous, celui de la musique dite ancienne, l'agitateur d'idées, l'essayeur de culture, le génie du pourquoi. Quand je pense que c'est l'ennui qui a poussé cet homme à se demander pourquoi, derrière son violoncelle, il s'emmerdait autant à jouer de la musique aussi splendide. Il écrivait... Il fut un temps où la musique était un élément vital de la civilisation. On entrait dans une salle de concert et on en sortait dévasté, transformé, dépouillé de ses certitudes. Ce Arnoncourt, quand même, on aurait pu le nommer le pape pourquoi premier. Pétard, quand en 1982, on a pu lire enfin son premier ouvrage, Le discours musical, ce fut un coup de Trafalgar. C'est encore le seul livre que j'emporte tous les étés en vacances depuis 36 ans. À partir de 1972, on collectionnait tous ces grands coffrets carrés, vous savez, recouverts de tissus bordeaux des cantates de Bach, où on trouvait des trucs extraordinaires, un livre est très documenté, mais aussi les partitions. Le choc, pour beaucoup d'entre nous, qui étions plutôt antiquaires qu'analystes, fut la violence de son interprétation. Beaucoup l'ont toujours trouvé trop violent, jusqu'à son dernier concert. Mais ce n'était pas de la violence. Je crois qu'il était plutôt survolté. Survolté de découvrir le sens du discours des auteurs, de découvrir qu'appliquer le résultat de ses dernières recherches avait une conséquence dramatique. Il jubilait de comprendre l'intelligence d'un compositeur en retrouvant le bon geste au travers de la musicologie, l'organologie, l'acoustique. On aurait pu l'appeler le pape tsunami premier. Regardez sur YouTube, ça c'est extraordinaire, monsieur Joss, cette répétition de la 5e symphonie de Beethoven, où il donne un départ très très violent, arrête tout le monde immédiatement, et on l'entend dire « Oh merde, j'en ai perdu mon pantalon ». Faut quand même dire qu'il n'était pas toujours commode et aimable, monsieur le comte, mais il était vrai, et il aimait les bonnes blagues et déclencher les rires. Enfin, quand même, on aurait hésité à lui taper dans le dos en se marrant, hein. Dans les années 80, dès que j'avais quelques sous et du temps, je prenais le bus direction Amsterdam pour le voir travailler avec l'orchestre du Concertgebouw, ou le train pour Vienne afin de l'observer diriger ses Autrichiens, les modernes ou les baroqueux. J'assistais aussi aux séances de travail quand il s'est lancé dans l'enregistrement des symphonies de Beethoven avec l'orchestre de chambre d'Europe, en mélangeant, chose incroyable à l'époque, cordes et vents modernes avec des cuivres anciens, une révolution. Oh, et ces longs monologues des débuts de répétition où il ouvrait sa boîte à outils, parlait de ses recherches, ses analyses et ses conclusions. On aurait pu l'appeler le pape érudit premier. Alors c'est sûr qu'un obscur conclave va se tramer ces prochains jours entre journalistes fumeux et critiques assoiffés pour déterminer qui d'un cardinal cacochime ou d'un évêque déplumé pourrait prendre la place vacante sur le trône. Mais personne, messieurs, personne ne peut revendiquer d'avoir allumé la mèche de la révolution historicisante. Car Nicolaos, tout de même, il a quand même foutu un sacré merdier dans le monde de la musique classique. Depuis sa première collaboration en 1977 avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, les orchestres symphoniques ayant pignon sur rue ont commencé à se sentir dépossédés de la légitimité à jouer Mozart, Haydn, comme ils l'avaient toujours fait sans jamais avoir réfléchi au pourquoi du comment. Puis la gangrène a gagné, il leur a piqué Beethoven, et puis Schubert, et puis Schumann, et Brahms, etc. Et ça ne s'est jamais arrêté. Mais ce n'est pas tant les orchestres qui ont pris la leçon, parce que beaucoup de musiciens pratiquaient en cachette les instruments anciens. Mais c'est surtout les chefs pontifiants qui ont découvert l'existence de l'analyse rhétorique, de la lecture du figuralisme et l'utilité de la connaissance du contexte historique, de l'organologie, de la disposition de l'orchestre. On aurait pu l'appeler le pape casse-couille premier. Bref, cher comte Arnoncourt de La Fontaine, vous allez sacrément nous manquer.
C'était Hervé Niquet que vous pouvez retrouver sur francemusique.fr.